Bonjour à tous, bonjour à toutes, à ceux qui n'ont pas pu dire bonjour ce matin. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Que sa paix, que sa joie, que lui seul peut donner à nos cœurs, soit avec vos âmes. Je vous invite à la prière. Dieu de gloire, nous te serons toujours reconnaissants. Oui, toujours reconnaissants. Parce que tu nous as aimés d'un amour si grand, d'un amour infini. Parce que tu es fidèle dans ce que tu es fidèle dans ce que tu dis, tu es fidèle dans tes actes. Tu es celui qui a toujours voulu notre bien. À toute personne présente ici, à ceux qui ne sont pas ici, à toute l'humanité, tu nous veux du bien. Nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui est capable de nous restaurer. Tu es celui qui nous connaît très bien, plus que quiconque au monde. Tu es celui en qui nous espérons recevoir la paix de nos âmes, recevoir la lumière qui éclaire nos chantiers. Tu es celui en qui nous croyons puiser ce dont nous avons besoin pour vivre bien sur terre et pour un jour te revoir lorsque tu viendras régner. Alors, ce matin, nous nous abandonnons sous ton autorité. Éternel, moi le premier, qui suis-je pour parler de ton compte? Je m'abandonne sous ton autorité pour que ton Esprit Saint puisse me conduire, me diriger. Que seulement ce qui édifie ton peuple sorte de ma bouche, que ce ne soit pas mes idées personnelles, que cela reste au fond de moi-même, mais que seulement ce qui édifie tes enfants sorte de ma bouche. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. J'introduis notre message par deux questions. Qu'est-ce que Dieu pourrait vous demander de faire aujourd'hui? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que Dieu pourrait vous demander de faire aujourd'hui? La deuxième question, quels outils vous a-t-il donné pour répondre à cet appel? Quels outils vous a-t-il donné pour répondre à cet appel? Ces deux questions, je les ai trouvées dans le message de la méditation d'hier dans notre pain quotidien. Et j'ai trouvé qu'elles répondent bien, judicieusement, et conviennent au message que je faisais toute la semaine en train de méditer pour vous partager, qui était également l'appel et les qualités d'un disciple. Vous avez compris, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à le servir. Donc l'appel et les qualités d'un disciple, ces deux questions vont nous guider jusqu'au bout. Qu'est-ce que Dieu pourrait vous demander de faire aujourd'hui? Quels outils, quelles qualités vous a-t-il donné pour répondre à son appel? Je me suis dit qu'il convient d'abord de... Alors, ce message, vous le comprenez, il est destiné aux disciples, à ceux qui sont en relation de travail avec le Seigneur Jésus. Et je me suis dit que ça vaut la peine d'abord de nous rappeler ce que c'est un disciple, d'où vient cet appel. Lorsque nous examinons la première question, qu'est-ce que Dieu pourrait vous demander de faire aujourd'hui? C'est une question ouverte dont on attend des réponses variées, personnelles, individuelles. C'est une question, malgré qu'on peut recevoir une réponse personnel, nous verrons bien que notre objectif, notre mission de disciple est le même. Ce que je peux répondre, ce que vous pouvez répondre, c'est totalement différent. Mais le but ultime, notre objectif final, nous le trouvons dans la mission commune que le Seigneur nous a confiée. Là où nous trouvons le devoir d'un disciple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Sans doute que vous avez déjà entendu ce message, mais ça vaut la peine de vous rappeler que c'est la mission ultime pour tout disciple, pour toi et moi, ceux qui ont choisi de suivre le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 28, nous nous rappelons de cette mission. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faire tous les disciples du Seigneur Jésus. Telle est ta mission, telle est ma mission. Le Seigneur nous appelle dans tout ce que nous faisions. Que le but soit à ce que nous puissions être ses témoins envers ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, qui est disciple, essayez de trouver une définition, est disciple de Christ, celui qui est venu à lui, à passer sous son autorité, et celui qui est disponible à aller et le faire connaître aux autres. Comment ? Juste, il y a une personne qui n'appartient pas à Christ, tu prends contact avec lui, tu avances, tu lui parles de Christ, tu le gagnes à Christ, et puis tu lui parles de la parole de Dieu pour que lui aussi puisse devenir disciple de Christ. Je dirais en le disant, c'est facile, mais dans la pratique, j'avoue que des fois, ce n'est pas facile, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. D'aller vers ceux qui ne le connaissent pas, ouvrir la bouche, proclamer l'évangile, les gagner en lui et les affermir dans la parole. Donc, pour résumer cette première partie, que je sois à l'école des dimanches, que tu sois à la garderie, que tu sois aux techniques, aux instruments, pasteurs, anciens, tout ce que nous faisons, ce qui prie, en incognito, mais qui prie pour notre communauté, tout ce que nous le faisons pour que Christ soit proclamé, pour gagner les cœurs, pour faire des disciples. Voilà notre objectif final. Alors, nous allons voir, entrer dans la deuxième question, maintenant qu'on vient de comprendre d'où vient cette mission et que nous tous nous sommes appelés à proclamer l'évangile, à faire des disciples, je vais vous inviter, nous allons voir l'illustration d'un parcours d'un disciple. Ce qui va avec la deuxième question, quels outils, quelles qualités le Seigneur nous a donné pour que nous puissions bien répondre à cet appel qu'il donne à chacun de nous d'être évangéliste, d'être missionnel partout où nous sommes. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, au chapitre 14. C'est là le message qui va nous guider pour le reste de cette partie. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 1er, nous lirons tout le chapitre. L'évangile à Iconium, Lystre et Derbe. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restaient incrédules, excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Au verset 7, là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, un homme impotent, des pieds, se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait de même que la foule offrît un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains, de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel des pluies et les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine qu'il purent, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent à Antioche et de Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, ils les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Perche. Ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. ils restèrent assez longtemps avec les disciples. Un long chapitre qui contient beaucoup de messages. Si on pourrait analyser, on avait le temps, on pourrait analyser chaque verset par verset, mais rassurez-vous, on va survoler ce texte, mais j'ai voulu qu'on le lise en ancien pour que même à la maison, vous puissiez encore relire ce texte, parce qu'il est plein d'informations de ce qui concerne la vie d'un disciple. Ce passage se situe à la troisième partie du mandat missionnel que le Seigneur Jésus avait donné aux disciples, ce que nous trouvons en Actes au premier chapitre, verset 8. Le Seigneur Jésus avait dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres nous parlaient du témoignage des apôtres à Jérusalem et toute la Judée et en Samarie. Le chapitre que nous venons de lire, 14, qui nous concerne, se situe à la fin du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, qui commence au chapitre 13, destiné à apporter le témoignage de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont quitté Jérusalem. Ils ont passé par la Samarie et la Judée en évangélisant. Ils sont partis à Antioche, qui est de la Syrie d'aujourd'hui. Pour, si vous voyez la carte, c'est d'Israël. On monte vers le nord d'Israël, à Antioche. Ils ont resté là-bas avec une église d'Antioche. Et là, ils sont en train de quitter. Le Seigneur les appelle pour la troisième partie de quitter la Syrie pour commencer à voyager. Donc, les villes dont nous venons de citer, l'Iconium, Lystre et Derbe, nous sommes aujourd'hui en Turquie. Pour vous situer de quoi nous parlons et d'où se trouvent Paul et Barnabas. Ils ne sont pas au chômage, Paul et Barnabas. Avant de partir en mission, ils participent aux activités de leur église locale à Antioche. Au chapitre 13, si vous le gardez au verset 2, on nous dit que pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, donc chapitre 13 des Actes des Apôtres, verset 2, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, et poser les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Verset 4 nous dit dans ce chapitre 13, « Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à celle-ci. » Donc ici, j'ai pris cette partie pour nous ramener à la base. Paul et Barnabas n'étaient pas au chômage en train de dire, « Ok, on attend que Dieu va parler et nous partirons. » Non. Ils sont actifs dans l'église d'Antioche. Ils participent au service, à la réunion des prières, au culte. On nous dit même qu'ils jeûnent pour demander, vraiment montrer cette humilité à notre corps, se mettre dans la présence du Seigneur et entendre ce qu'ils nous disent. Donc c'est les gens qui sont déjà actifs dans leur église, dans leur communauté, mais qui se mettent d'abord aux pieds du Seigneur pour entendre ce qu'il les dit. On nous dit que c'est le Saint-Esprit qui parle. Ils n'ont pas décidé sur le coup de la tête de dire « nous partons ». Non, le Saint-Esprit a dit « mettez-moi de côté Barnabas et Paul pour que je les envoie ». Donc c'est un appel du Seigneur. Ils ont eu la conviction par le Saint-Esprit, on nous dit au verset 4, que le Saint-Esprit les a envoyés. Premièrement, la prière doit guider la vie du disciple. On ne décide pas sur un coup de tête. Non, on ne décide pas parce qu'on sent. Non, on est missionnaire, Dieu t'appelle, Dieu nous appelle. Mais avant de décider quoi que ce soit, on prend le temps de prier. On prend le temps de poser la question, de présenter la situation au Seigneur. On prend le temps de l'écouter, parce que notre Dieu parle toujours. Nous retournons alors dans notre chapitre 14. Je vous fais voyager, mais c'est les parties qui sont liées, dont on ne peut pas expliquer l'autre sans l'autre, sans passer par le chapitre 13. Ce passage est encourageant lorsque nous lisons au chapitre 14. Pour nous tous, nous y trouvons un outil qui nous aide à répondre à la question de comment connaître son appel. On nous dit déjà ce qu'on vient de voir au chapitre 13. Le disciple ne croise pas les bras en attendant que Dieu va parler. Au contraire, il s'active, il se dispose, il participe déjà à la vie de là où il est. Que ce soit à Antioche, que ce soit à la rue du Moniteur, on participe. Et Dieu, dans notre activité, il voit, il parle, alors il nous éclaire. C'est dans la présence du Seigneur et étant actif à son service que nous retrouvons la révélation sur notre appel. Je ne peux pas découvrir que je peux partager quelque chose avec vous si je reste chez moi et avec mon épouse et mes enfants, ce qui est bien, l'Église commence par là. Mais on apprend ce que c'est vraiment être disciple quand on est avec les autres dans l'Église, dans sa communauté. Donc les dons, Dieu nous les a donnés. Les dons, chacun de nous, Dieu nous a équipés. Quand il nous a créés, chacun est unique. Nous avons des dons personnels. Mais sans les exercer, sans les mettre au service de notre communauté, nous ne pouvons pas découvrir que nous avons ces dons. Il y a des choses que tu sais faire parce que les autres t'ont dit « Ah, tu sais, là tu es bon. Ça, tu le fais très bien. Ça, tu le fais bien. » Donc, se mettre à l'action, se mettre à la disposition des autres, se mettre avec les autres pour servir le Seigneur, c'est le point de départ pour que nous puissions découvrir ce que Dieu a mis en nous. Ça, c'est premier outil, expérimentation des dons, il faut aller au service. Au chapitre 14, au verset 2 et 3, on nous parle du courage. On y trouve du courage entre Paul et Barnabas, qui se trouvent dans un peuple où ils ne connaissent même pas leur langue. Malgré l'incrédulité des Juifs et un climat hostile, Paul et Barnabas n'abandonnent pas, mais ils restent longtemps à Iconium. Ils sentent les choses, ça ne va pas, c'est difficile, mais ils ont reçu une mission parce que le Saint-Esprit les a dit, ils ont eu le temps de prier, ils ont la conviction. Alors, ils restent longtemps, malgré les difficultés. Ils persistent, ils continuent de parler avec assurance le témoignage de Christ à la parole de sa grâce, et Dieu accepta qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Ça, c'est un encouragement. Ça me rappelle, ça m'a fait penser à la parole de Dieu dans le livre de Daniel, des trois copains de Daniel qui ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils décident de les mettre dans la fournaise, ils disent, même si notre Dieu va nous sauver, même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas louer ton Dieu. Même chose pour Daniel, dans le chapitre 6, dans la fosse aux lions, ils sont persécutés, mais ils gardent le courage. Ils gardent cette audace de dire, non, je sais celui à qui je sers. J'ai signé un contrat avec Jésus. C'est lui que je sers. Même si c'est difficile, je reste et je persiste. Concernant le terme « longtemps », la Bible ne nous dit pas si c'est un mois ou deux mois ou trois, une année, deux ans, mais on pouvait sentir ce qu'il ressentait quand on est dans une situation où l'ambiance est morose, c'est pas facile de rester. Mais ce qui fait la différence, c'est quand tu restes parce que tu as reçu un message du Seigneur et que tu persistes. Bien sûr, il peut y avoir un temps pour chacun. Lorsque Dieu te dit, là tu termines le travail, tu peux continuer. Et c'est ce que je pense qui se passe au verset 6. On nous dit qu'il se préparait quelque chose pour les persécuter, les lapider et qu'ils ont quitté cette ville. Je ne crois pas qu'ils ont quitté parce qu'ils avaient peur, mais juste parce que le temps de quitter cette ville était arrivé. Mais on nous dit au verset 7 qu'ils ne sont pas partis très loin. On nous informe que là aussi, ils n'ont pas abandonné leur mission. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils n'ont pas quitté en disant « Non, j'ai fait mon travail là-bas, on m'a menacé, on m'a persécuté. Ok, je ferme le livre, je vais faire autre chose. » Non. Je quitte là-bas, j'ai fait ce que je devrais faire là-bas, parce que le Seigneur m'appelle ailleurs. Je vais continuer, et là aussi, je vais continuer à annoncer la bonne nouvelle. L'audace, le courage doit nous caractériser, même ici, dans l'Église. Dimanche passé, on apprenait de l'athlétisme, combien les athlètes se battent pour quelques secondes. Cette qualité de l'audacité, du courage, doit aussi, nous aussi, nous animer dans cette relation que nous avons avec le Seigneur. Troisième qualité que le Seigneur nous donne, troisième outil, c'est la puissance. La puissance, on le voit au verset 8. Paul voit un homme qui n'a jamais marché. Il ordonne au nom de Jésus de se lever. Aussitôt l'homme bondit. Quelle puissance! Ce n'est pas seulement par la force de la parole de Paul, mais c'est parce que celui qui l'a envoyé est puissant. Celui qui le guide est puissant. C'est une promesse que nous avons lue lorsque Jésus les envoie, envoya les disciples dans Actes 1er chapitre verset 8 que nous avons lu, il dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Ceux qui se disposent à servir le Seigneur reçoivent cette puissance. Paul et Barnabas étaient accompagnés par la puissance de Dieu. Sans cette puissance qui nous entoure, aucun disciple ne peut tenir devant la ruse et la méchanceté du diable qui combat l'annonce de l'Évangile. Christ lui-même nous accompagne dans le feu, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il l'a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus lui-même dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il savait qu'on aura besoin de lui. Il savait que ce sera difficile pour toi et pour moi, mais il nous garantit de nous accompagner. Et nous sommes au bénéfice de sa puissance. Paul savait que Dieu lui avait promis la puissance et il a simplement réclamé et il l'a utilisé. C'est par la puissance de Dieu qui accompagnait Paul que cet homme a pu se tenir debout. Et ce n'est pas par la puissance de Paul, c'est la puissance de Jésus qui lui avait promis. J'ai trouvé un commentaire sur ce passage d'un certain que vous connaissez quelques-uns, John MacArthur, un grand pasteur aux États-Unis. Il a écrit à ce sujet, il dit, un vrai disciple, un disciple efficace, est quelqu'un qui croit que la puissance de Dieu lui appartient, la revendique et avance par la foi. Et il continue, il dit ceci, il partage un témoignage, « Je pense toujours à un couple de Los Angeles, j'ai lu dans le Los Angeles Times, il est mort de malnutrition à l'âge de 55 ans et on a trouvé 45 000 dollars dans des sacs en papier brun dans son placard. Incroyable, continue MacArthur. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent de malnutrition spirituelle. Ils ne comprennent jamais la puissance et les ressources de Dieu parce qu'ils n'ouvrent jamais le placard qu'ils ont déjà pour sortir. Je ferme la parenthèse de son message. J'ai trouvé ça un message qui peut nous parler. Combien de fois nous doutons? Combien de fois nous pensons que non? Est-ce que notre Jésus, est-ce que vraiment je peux dire que le Seigneur guérit les malades? Est-ce que si je le dis, on ne va pas croire que je viens de quelque part, je ne suis pas cartésien? Est-ce qu'un homme instruit dit les choses comme ça? Combien de fois on a peur de dire qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu? Alors j'ai pensé effectivement à cette malnutrition spirituelle. Des fois, nous nous soumettons à, même là où le Seigneur veut voir que nous avons la foi, nous renonçons. Que le Seigneur nous aide à saisir ce don qu'il nous donne, la puissance, sa puissance, lorsque nous sommes bien, bien au service. Pour sa gloire, toujours. Parce que les versets qui suivent parlent de l'humilité. L'humilité, l'humilité qui doit caractériser la vie d'un disciple. Un vrai disciple de Christ est caractérisé par l'humilité. Paul et Barnabas ne voient pas le miracle qui vient de s'opérer, de se réaliser comme une occasion pour eux de faire régner leur autorité sur la ville de Lystre ou en tirer un quelconque profit. Non. Ils s'acharnent, ils se battent, ils disent « Non, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous ?» Ils implorent ce peuple d'arrêter de tomber dans l'idolâtrie. Ils cherchaient de faire tout pour la gloire de Dieu et rien pour leur gloire. Au verset 15, une parole d'humilité, notre chapitre 14, ils disent « Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. » Ils reconnaissent que ce n'est pas eux qui opèrent des miracles. Par contre, ils saisissent l'occasion et demandèrent à ce peuple de renoncer à l'idolâtrie et se retourner vers le Dieu vivant pour l'adorer. Paul et Barnabas ont lutté, ont péché cette foule de leur offrir un sacrifice pour qu'ils ne tombent pas dans l'idolâtrie. Ils ont lutté pour garder l'humilité. Ils ont lutté. Nous sommes appelés, pour le peu que nous pouvons faire parmi nos frères et sœurs, nous sommes appelés à rester humbles, accessibles, serviables à l'image de notre Seigneur Jésus. L'humilité, ça doit nous préoccuper, frères et sœurs. C'est facile de tomber dans l'orgueil. Mais que Dieu nous en épargne, mais que nous puissions aspirer à cet outil, à cet caractère, qualité d'humilité dans ce que nous faisons parmi nos frères. Cinquième qualité, la persévérance. Oh, la persévérance. Au verset 19, on nous rapporte Paul est lapidé, jeté dans un décharge hors de la ville parce que ses persécuteurs pensaient qu'il était mort. Essayez de vous imaginer dans quel état était son corps pour être abandonné dans une décharge. On pense qu'il est mort, on l'abandonne. Mais au verset 20, cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. J'essaie de m'imaginer cette scène. Tu es abandonné dans une décharge, tu es mort. Quelle puissance encore! Quelle puissance! Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Le lendemain, chers frères et sœurs, le lendemain, il n'a pas dit non, je vais chercher un médecin, ça devient trop. Je souffre, maltraité, j'ai failli mourir. Il n'a pas dit non. N'a pas renoncé. On nous dit que le lendemain, il continue sa mission. Quelle persévérance! Cette scène dépasse l'entendement humain, mais on voit une restauration miraculeuse pour une mission exceptionnelle. Il faut le reconnaître. Celui qu'on croit mort se leva et retourna dans la ville pour continuer son service. Cela devrait avoir été un choc pour ceux qui le persécutaient. Quelle persévérance! Quelle persévérance! C'est comme si une force surnaturelle agissait en lui. Et Paul écrira plus tard aux Philippiens, au chapitre 4, verset 13, Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Il reconnaît que dans ses difficultés, seul Christ peut donner la capacité de résister, de persévérer. Ça demande une connexion. Ça demande vraiment d'être bien spirituellement dans la parole de Dieu, au service, être conscient de ce pourquoi tu te bats. Le service du Seigneur. Le service du Seigneur. La persévérance. Nous en avons besoin, nous également. Jeudi soir, on a repris la réunion de prière pour ceux qui étaient là. Paul, qui n'était pas présent parmi nous dimanche passé, a repris le passage qu'Éric avait pris dans la présidence, Hébreux chapitre 12 et les trois premiers versets, qui parlent de la persévérance dans la vie chrétienne. Et ce passage, je l'avais pris la semaine précédente dans la présidence lorsqu'Éric était en vacances, était sur la route de retour des vacances. Le message qui revient, c'est un appel pour nous tous à ouvrir nos oreilles spirituelles, parce que le Seigneur veut que nous soyons persévérants. Ce n'est pas facile, oui. Mais celui qui t'a appelé, celui qui m'a appelé, celui qui nous appelle, veut que nous puissions persévérer à son service. Et celui qui nous équipe, il nous donnera la force nécessaire pour pouvoir y arriver. Nous pouvons lui faire confiance. La persévérance. Sixième qualité d'un disciple après l'exercice de ses dons, le courage, la puissance, l'humilité, la persévérance, arrive alors le suivi. Le disciple qui sait de quoi il a été appelé, qui est impliqué dans son service, il est appelé à faire un suivi. Un disciple mature pense à faire le suivi auprès de ceux dont il a gagné au Christ. Il ne les oublie pas. On n'oublie pas là où on a évangélisé. On n'oublie pas. Au verset 21 de notre chapitre 14, on nous dit aussitôt, il terminait l'évangélisation à Derbe, les voici retournés à Lystre, à Iconium et à Antioche, comme s'ils avaient oublié les oppositions féroces qu'ils y avaient rencontrées. Mais ils n'oublient pas les nouveaux chrétiens laissés là-bas. Il y a un risque, mais il retourne là-bas pour faire un suivi. Quand tu as pris le courage de partager l'évangile avec quelqu'un, il faut y retourner pour faire un suivi. C'est très capital. Au verset 22, il s'y retourne pour fortifier l'esprit des disciples, les rendre plus solides par la méditation et le partage de la parole de Dieu, les enseigner une doctrine saine et solide. Ça doit se faire. Tu peux passer le premier jour partager avec quelqu'un, il a été touché, il a accepté le Seigneur, tu continues ton message, mais il faut revenir encore pour prendre le temps, proposer le temps de partager la parole de Dieu pour que cette doctrine puisse être la leur, se l'approprier dans sa vie de tous les jours. Puis, ils encouragent à persévérer dans la foi, toujours au même verset 22, en les exhortant à suivre la bonne ligne de conduite et à avoir un bon comportement. Ça va de soi. Continuez à s'approcher à ceux dont vous avez partagé l'évangile pour s'inciter à avoir un comportement digne de Christ, un bon comportement. Cet encouragement mutuel est nécessaire à la persévérance dans la foi. Le suivi consiste également à diriger les autres. Paul, au verset 23, pour les Barnabas, on nous dit qu'ils ont arrivé, ils ont même choisi les anciens pour les églises. Il ne s'agit pas d'iriger ici, il ne s'agit pas de faire asseoir son autorité encore sur eux, mais de les aider à mieux s'organiser. C'est pourquoi Paul et Barnabas prennent le temps de désigner les anciens dans chaque église. C'est capital. Ici, peut-être Paul, lui, c'est pas peut-être qu'il avait une mission plus large. Il devrait affermir des églises, mais dans le rôle de disciple, dans ses capacités, ce qu'il doit faire, ce suivi est nécessaire, savoir également diriger. Il faut que les autres, alors, puissent se laisser diriger, parce que des fois, c'est là où il y a un souci. Hein, lorsque tout le monde veut diriger et qu'ils ne veulent pas écouter les gens que l'Éternel a disposés pour eux, je ne le dis pas pour moi, non. Mais je le dis juste que dans l'Église aussi, on a besoin de l'ordre. On a besoin de l'ordre, d'une bonne organisation. Et c'est pour cela que l'Église, depuis que la rue du Moniteur existe, il y a toujours eu le pasteur, les dirigeants, les gens pour aider les autres à garder cette organisation. C'est nécessaire dans toute l'Église. Le disciple clôture son suivi auprès des autres par ce que j'appelle la pierre angulaire. Il les recommande au Seigneur. Paul et Barnabas ont pris le temps de prier avec les gens qu'ils avaient amenés au Seigneur et puis ils les ont recommandés au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui pourra assurer le suivi final, c'est le Seigneur qui restera avec eux, même lorsque Paul et Barnabas ne seront pas là. Nous avons un devoir de prier, de recommander au Seigneur les gens avec qui nous travaillons. Nous devons, j'y trouve, même une bénédiction mutuelle, les enfants de Dieu. Nous devons apprendre à nous bénir mutuellement. Que le Seigneur te garde, te fortifie. C'est une parole qu'on peut prendre à la légère, mais lorsque c'est parlé avec foi et conviction, Dieu te protège et te fortifie. Dieu te garde et Dieu te bénisse. Parce que le Seigneur, effectivement, il veille sur ses enfants. Nous devons nous recommander mutuellement au Seigneur. Septième et dernier outil ou qualité, il y a le partage que nous voyons dans les versets 27. Le disciple retourne à la maison, si je peux dire. L'importance est du témoignage. À la fin de sa mission, le disciple est de retour à l'église locale et partage son expérience parce qu'il est important de communiquer ce que Dieu a fait pour encourager et motiver les autres disciples. Ce n'est pas pour rien que des fois on nous donne des nouvelles ou que nous demandons les nouvelles de Martha et Omaru. Ou lorsque nous voyons quelqu'un qui vient de mission de très loin ou d'ailleurs, d'écouter ce que le Seigneur a fait. Parce que ça témoigne que notre Dieu est universel, que notre Seigneur effectivement est fidèle dans ce qu'il a dit. Vous serez mes disciples partout jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous pouvons effectivement apprécier ces qualités dont nous venons de parler chez Martha Omaru et les autres qui sont partis. Prenons ce temps de prier également pour eux. Ça nous engage parce qu'ils ont eu le courage que toi et moi n'avons pas eu. Que le Seigneur nous aide. Nous devons partager nos témoignages lorsque le Seigneur fait quelque chose dans nos vies, dans nos services, non pas pour nous glorifier, mais pour édifier les autres. Sinon, ça reste abstrait. Ça reste abstrait. La parole de Dieu reste abstraite alors que Dieu agit. C'est bon de partager nos témoignages. Lorsque tu as prié avec quelqu'un et que le Seigneur l'a touché, lui a fortifié, il faut le dire aux autres pour qu'on puisse apprendre cette habitude de se confier, de prier les uns pour les autres et de partager la parole de Dieu. Oui, Nous prions pour des malades et nous voyons ce que le Seigneur fait. Et nous disons merci Seigneur. J'en profite pour vous dire qu'Edouard est en vacances. Il était hospitalisé il y a quelques jours. Je sais qu'il y a ceux qui prient pour lui. Et pour ceux qui ont prié pour Anne, ceux qui ont prié pour Luc. Mais Dieu les fortifie, les ramène dans leur foyer et les donne même les occasions, comme Edouard, de partir en vacances. Lorsque je l'ai entendu, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le bien de sa famille et pour son bien, et pour nous aussi, nous édifier que nous devons continuer à prier. Notre Dieu entend nos prières. Pour clôturer notre message de ce matin, quelques mises en pratique. Nous reprenons notre question. Qu'est-ce que Dieu pourrait vous demander de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous rappelle que nous tous, qui l'avons choisi comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous devenus ses disciples. Et nous a confié une mission de faire les disciples partout où nous allons. Que ce soit à la rue du Moniteur où nous sommes, que ce soit en dehors de notre communauté, que ce soit dans nos foyers, dans nos familles, nous sommes appelés à appeler les autres à venir à Christ et recevoir le pardon de leurs péchés. Oui, la grâce qui nous a été accordée et la vie éternelle que seul Jésus-Christ donne à ceux qui lui appartiennent. La parole de Dieu nous exhorte à prendre au sérieux notre appel. Oui, la vie de l'Église, ce n'est pas seulement les anciens, leurs épouses et le pasteur. Non, la vie de la communauté te concerne également. Quelque chose qui me préoccupe lorsque nous sommes dans réunion de prière ou études bibliques et que on ne peut compter que 10 et maximum 15 personnes, alors que dimanche nous sommes presque 100 personnes. C'est un sujet de prière pour nous tous. Prends ton service au sérieux. Le Seigneur t'appelle personnellement. Et il t'a donné cette mission comme il me l'a donnée. Et chez le Seigneur, chez Jésus, il n'y a pas les plus grands et les plus petits, non. Nous sommes tous égaux et nous sommes appelés à utiliser les dons qu'il nous a donnés. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents de l'esprit, d'esprit et servez le Seigneur. C'est Paul que nous avons entendu, l'apôtre Paul, qu'il écrit en Romains au chapitre 12, verset 11. Il savait de quoi il parlait. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est un appel pour nous tous aussi ce matin. Pendant qu'on lit et on partage cette parole, regarde où tu peux servir le Seigneur. Pose-toi, essaye de répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu pourrait te demander de faire aujourd'hui? Deuxième question, quels outils, quelles qualités le Seigneur vous a-t-il donné pour répondre à cet appel? Sa parole nous rappelle qu'il est le dispensateur de tout bienfait et de tout don parfait. Épître de Jacques, premier chapitre, verset 17. C'est le Seigneur qui pourvoit aux dons auxquels nous aspirons. Le Seigneur ne nous a pas envoyé au service les mains vides, non. Il ne nous envoie pas les mains vides. Il est prêt à nous équiper de toutes ces qualités dont on a parlé d'un disciple moderne, pour autant que nous nous mettions au service, pour autant que nous sommes prêts à le service, à le servir, pardon. Voulez-vous être un disciple moderne comme le Seigneur Jésus le veut? Alors, on a reçu des outils, Mettez-vous au travail, ça c'est la première qualité que nous avons citée. Mettez-vous au travail afin de connaître vos dons et utilisez-le. La parole de Dieu nous a exhortés ce matin d'être courageux en nous reposant sur la puissance du Seigneur. N'hésitez pas de demander au Seigneur de t'équiper lorsque tu sens que tu es faible. Il a déployé une puissance pour nous aider dans notre ministère. Gardons à cœur l'humilité. L'humilité. Soyons persévérants. On en avait parlé. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Ce sont deux versets que j'ai tirés dans l'épître dont je vous ai parlé, Hébreux chapitre 12, premier verset B jusqu'au verset 2, nous appelle à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée en fixant nos regards sur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Faisons le suivi et partageons avec les autres ce que le Seigneur a fait parmi nous. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci parce que tu nous appelles à te servir et nous sommes témoins que tu es le meilleur patron qui peut exister. Parce que toi, tu es plein d'amour envers tes employés. Tu le dis en ta parole, tu ne nous appelles plus nos serviteurs, mais tu nous appelles tes amis. Quel privilège d'être tes amis. Voulons nous abandonner sous ton autorité encore. Tu connais le cœur de chacun ici présent. Tu connais là où nous sommes défaillants. Tu sais ce qui nous empêche à te servir comme il faut. Nous voulons te demander pardon pour la paresse et te demander de nous équiper, mettre à cœur ce message pour que nous puissions nous investir à ton service. Merci pour ce que tu as fait pour Paul et Barnabas, ta parole est vraie, tu es prêt à le faire parmi nous également. Aide-nous à saisir ces qualités que tu donnes, aide-nous à nous réjouir à ton service. Oui, il fait bon à ton service. Dirige chacun de nous, que ton Esprit Saint conduise toutes choses dans nos vies quotidiennes et dans la vie de ta communauté. Pour ta gloire, rien que ta gloire. En ton nom, nous avons prié. Amen.